émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. et je fais ce que je veux. Tu comprends ? Il ne dit rien, mais est très triste. Le soir, elle sort seule. Il ne peut rien dire et souffre de jalousie. Dans les soirées où ils vont ensemble, tout de même, ils y vont de temps en temps ensemble, elle ne fait que regarder les hommes. Il enrage, mais n'ose pas dire quoi que ce soit de peur de la perdre. Elle se fait acheter une maison à Deauville, une belle maison qu'elle veut rénover. Il accepte. Son argent diminue de plus en plus. Et en plus, elle le fait souffrir. Elle en pouvant plus et sentant qu'il faut de plus en plus d'argent parce qu'une partie de son argent est bloquée à cause des impôts et puis l'argent file vite avec Margaret, il décide d'aller voir Jean. Jean le reçoit. Par pitié, il est morose, il lui demande. J'aurais besoin d'un peu d'argent. Et soupire, il lui dit. Je ne peux pas, je suis surveillé, tu le sais. Elle le voit triste, lui demande. Qu'est-ce que tu as? Il lui dit. Rien. Et tellement pris par son amour qu'il ne cherche même plus à lutter pour avoir de l'argent. Autrefois, elle l'aurait giflé, battu, traité de tous les noms. Mais là, il devient comme un enfant devant elle. Elle se dit qu'il a vraiment changé. Alors, tristement, il s'en va. Il s'est en allé sans rien dire. Il rencontre Adrien dans le parc. Là, il veut extérioriser son mal, sans chercher à jouer au personnage. Un personnage, il dit à Adrien. Tu ne dois pas oublier que tu es à moi. Tu vois ce que je veux dire. Et lorsque tu prends la direction du groupe, tu dois penser à moi. N'oublie pas que tu n'es rien. Adrien se sent triste. Il a honte de tromper Jean, de jouer la comédie, de prendre la place d'un autre. Mais il a peur, s'il parle à Jean, de la perdre, que David se venge sur lui aussi. Il étudie le mieux qu'il peut en prenant des cours par correspondance. Il ne veut pas décevoir Jean. Pense souvent à la jeune fille, mais se dit que là aussi c'est impossible. Reste enfermé, mais n'a pas envie de sortir parce qu'il a peur de ne pouvoir revenir. Mais il fait de plus en plus des rêves étranges. Oui, étranges. Avec des cris, où il court, où il roule en voiture. Ses rêves lui apportent une joie terrible. Il se réveille en sueur et se demande ce que cela veut dire. Il se dit que ça ne fait pas partie de sa vie. Alors d'où viennent ces images? Des fois, il sent qu'il est contre une ombre. Se serre contre très fortement contre elle pour se faire caresser. Elle lui donne une grande satisfaction et se mouille. La grand-mère est très douce pour lui. Elle lui parle de ses parents et lui dit qu'il prendra la place de présidence dans le groupe. Lui se sent gêné. Le chauffeur lui parle trop souvent de voiture. Lui s'en intéresse de plus en plus et demande qu'on lui apprenne à conduire. Un jour, la grand-mère le voit dans la voiture avec le chauffeur. Elle est furieuse et dit au chauffeur: vous savez qu'il ne doit en aucun cas sortir de la propriété et ni conduire. Malgré lui, Adrien a une crise de nerfs et lui dit: je veux sortir et conduire une voiture. Il devient même violent avec sa grand-mère. Il lui donne des coups de pied. On le calme en lui faisant une piqûre. La grand-mère dit au chauffeur: vous voyez, il n'est pas guéri. Il est très fragile. Le chauffeur se dit qu'il est très fragile et fou. Il serait incapable de diriger le groupe. Il en parle à Albert. Albert lui dit: c'est un bon à rien. C'est bon pour moi. On le mettra dans une maison. Mais vous, vous devez rester en place. Pour cela, obéir à John. Adrien, fois remis de sa crise, a honte et demande pardon à sa grand-mère. Il ne sait pas pourquoi il a agi comme ça. Je te demande pardon, grand-mère. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis en colère. Elle lui dit: ce n'est rien. Tu es un peu fragile, comme tout le monde. Et puis c'est la faute du chauffeur. Il demande: est-ce que je serai toujours comme ça? Parce que ça me fait peur. Elle lui répond: non, ça passera avec l'âge. Et puis tu vas prendre de l'assurance. Le chauffeur aussi va s'excuser auprès de Jean et lui dit: j'ai fait ça, c'est pour faire plaisir aux petits qui avaient besoin de se distraire. Jean lui dit: ne recommencez plus. Vous avez bien compris?
Oui, madame.
David a peur de vieillir et que Margaret le laisse parce qu'elle semble bien aimer les jeunes gens. Un soir, il lui dit au salon: j'ai peur de vieillir parce que je suis sûr que tu me laisseras pour prendre une personne plus jeune que moi. Elle lui dit: mais non, mon vieil idiot. Mais elle lui dit aussi: j'ai fait la connaissance d'un banquier charmant. Il veut m'aider. Il lui dit furieux: je ne veux pas, tu es à moi. Il lui dit: ne fais pas l'imbécile. Tout se passera très bien. Tu seras ami avec le banquier qui est un vieux cochon. Et elle lui fait rencontrer le banquier dans une soirée. C'est un homme de 70 ans, grand, gros, chauve, le visage bouffi avec de gros yeux. Margaret lui dit: je vous présente Robert Watteau, une personne très bien, et je tiens à ce que vous deveniez amis tous les deux. Robert tend la main à David. David la prend, mais ne la serre pas. Il est furieux. Le frère demande:
Alors, vous êtes un ami d'enfance de Margaret. Un vieil ami, bien entendu, et plus vieux qu'elle. David ne dit rien. Banquier lui dit, moi, je l'ai rencontrée voilà bien une semaine. Elle était désespérée parce qu'elle ne pouvait pas payer le loyer de son appartement. Et j'ai proposé, en tout bien, tout honneur, de l'aider. David ne dit rien. Puis une fois que David s'est éloigné, le banquier dit à Margaret, je ne l'aime pas. Elle lui dit, mais pas du tout. Il ne m'aime pas. Mais pas du tout. Il est un peu fatigué ces derniers temps. Et puis, il est très timide. Le banquier lui dit, alors, comment fait-il pour gagner de l'argent pour gérer ses affaires s'il est très timide? Elle lui dit, là, c'est pas la même chose. Il se sent intimidé dans les réunions comme celle-là. David, durant la soirée, roi du noir, et regarde Margaret toujours avec son banquier, danser, rire, et ne faisant pas attention à lui. Une fois que la soirée est finie, que le banquier les ait tous les deux raccompagnés jusqu'à devant l'immeuble où habite Margaret, il dit au revoir en embrassant Margaret et lui demande « Comment se fait-il que votre ami habite chez vous ?» Elle lui dit « Parce que son appartement est en train de se rénover. Mais ne vous en faites pas, j'ai un très grand appartement et puis c'est un peu comme mon frère. » Le banquier dit au revoir à David qui ne lui répond pas. Et une fois que Margaret et David sont dans l'appartement, Margaret lui dit « Tu t'es comporté comme un goujat, et à cause de toi, il ne voudra peut-être plus me revoir. » « Oui, tu n'es qu'un goujat, et tu ne sais même pas te conduire dans le monde. » Il lui dit « Et toi, tu te comportes bien, tu te comportes comme une grue, et en plus devant moi. » Il lui dit « Et alors, j'ai bien le droit de faire ce qui me plaît, je suis libre de mon corps qui m'appartient. » Si je veux me comporter comme ça, tu n'as rien à me dire. Il lui dit, mais je t'aime. Et puis c'est moi. C'est moi qui t'ai jusqu'à présent. Je ne veux pas que tu te comportes comme ça, sans te cacher avec cet homme. Elle hausse les épaules et le quitte. Il souffre, il a très mal, il se dit qu'il ne veut même pas aller trop loin parce qu'il risque de la perdre. Hélas, il ne peut pas. Pour la première fois de sa vie, il aime vraiment quelqu'un et en plus une femme qui est belle, mais qui a un caractère impossible. Lorsqu'il est lucide, il se dit qu'il est tombé amoureux d'une prostituée. Oui, une prostituée. Et c'est trop tard. Il souffre énormément. Malheureusement, il est obligé de cacher sa souffrance pour éviter qu'elle soit en colère. Elle le méprise de plus en plus. Elle ne se cache pas pour lui montrer son dédain. Elle profite de l'amour qu'il a pour lui, qu'il a pour elle, pour montrer sa puissance sur lui. Ça l'excite de dominer un homme. Lui, chez elle, reste enfermé en lui-même et souffre. Il n'ose plus le proposer de faire l'amour, de peur de la mettre en colère. Il mord d'un amour comme une pauvre petite chose qui n'est que souffrance. Comme d'habitude, il souffre et son esprit est plein de Margaret. Il ne peut plus s'occuper de ses affaires, qui pourtant rapporte bien à cause des immeubles et des appartements qui sont bien loués à Paris. Dans un de ces instants de lucidité, qui sont de plus en plus rares, il se dit qu'il a su mater des vieilles milliardaires. Et là, une fille qui est presque rien, il ne peut pas. La maladie continue à faire des ravages. On ne sait comment la soigner. Aucun médicament. On essaye de calmer les douleurs avec des médicaments et ces médicaments commencent à manquer. Les industries pharmaceutiques pourtant marchent à plein temps. Les chercheurs cherchent toujours en étudiant les cadavres. Il y a des bénédictions, des pèlerinages, des messes. On met des cierges dans les églises. Tout le monde demande à la Vierge Marie de les sauver, comme elle l'a déjà fait. Il y a tellement de morts que pour les éliminer rapidement, on ne fait plus de cérémonie pour les morts, on les met directement au four. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un corps de plus par rapport à tous ces morts? Les gens démoralisés ne pensent plus à leur mort. Dès qu'une personne meurt, on ne s'en occupe plus. Il y a tellement de morts que ça ne fait plus rien que d'apprendre la mort d'un des siens. Et puis, un de plus, qu'est-ce que c'est au milieu d'un million de morts? La mort est devenue quelque chose de banal auquel on ne peut plus rien. Oui, plus rien. C'est grâce à la peste, comme le souhaitait depuis toujours la religion catholique, que certains catholiques disent que Dieu, grâce au mal, a réussi à faire comprendre aux hommes que la vie sur terre n'était pas l'essentiel et que la mort n'était pas quelque chose de terrible parce qu'elle permettait aux hommes d'accéder à l'éternité. Dieu, en envoyant la peste, a envoyé un message d'espérance aux hommes et l'ont compris puisqu'ils trouvent normal de mourir.
Yeah.
avant de mourir, il faut vivre. Et pour cela, il faut manger et boire. La pénurie de nourriture se fait ressentir. Toutes les récoltes ont brûlé par le soleil et le manque d'eau. Les animaux morts de faim et de soif, ils ne peuvent plus donner de viande et de lait. Et lorsque les bêtes sont dépecées, l'on prend ce qui peut être mangé. Pour que la viande animale puisse avoir l'air d'être en bonne santé, on l'asperge de produits chimiques pour la rendre mangeable et lui donner l'illusion d'être plus belle. Mais les gens ont tellement faim qu'ils ne font pas attention à ce qu'ils mangent. Ils mangeraient n'importe quoi et mangent n'importe quoi. Les quelques rares personnes qui ont les moyens de se débrouiller pour avoir des aliments corrects, ce sont des gens très fortunés, mais ça devient de plus en plus difficile. Les gens, malgré qu'ils sont fatigués par la chaleur, le manque de nourriture, ont peur de la peste, parlent malgré tout dans les lieux publics et critiquent les personnes qui sont riches et qui souffrent moins qu'eux. Robert, dans sa clinique, ausculte une malade. C'est une femme d'une trentaine d'années, le visage avec des taches rouges, blondes, qui a de la fièvre. Il voit qu'elle a sur la peau comme une pommade et lui demande « Qu'est-ce que vous avez mis sur votre peau ?» Elle lui dit « C'est une pommade que j'ai mis pour assouplir ma peau. C'est la pommade de ma patronne. Je suis femme de chambre. Je me suis permis de lui en prendre un peu. » Quelque chose dit à Robert qu'il doit faire analyser la pommade. Pourquoi? Il ne sait pas. Mais qui sait? Ça peut donner une idée. Il prend un échantillon de la pommade pour la faire analyser. Il a fait analyser. Deux jours plus tard, la femme meurt comme les autres. Laboratoire Pasteur analyse la pommade. Pendant ce temps, le docteur Rambert téléphone à la patronne de la femme de chambre. Il lui dit « Je m'excuse, madame, de vous déranger. » Mais c'est pour vous annoncer le décès de votre femme de chambre. J'aimerais, c'est vous demander quel est le produit que vous prenez pour assouplir votre peau. Elle lui demande, pourquoi, monsieur? Il lui dit, parce que votre femme de chambre avait cette pommade. Et j'aimerais simplement savoir quel effet elle a sur la peau. Rien de plus. Madame, absolument rien de plus. Alors elle lui dit, c'est une pommade des produits Forvigny. Elle s'appelle Peau Fraîche. Il lui dit, je vous remercie, madame. Cela risque peut-être de nous rendre un grand service. Elle lui dit, ce n'est rien, monsieur. Une fois qu'elle est finie de téléphoner, c'est une femme blonde dans les 25 ans, grande, mince, le visage agréable. Elle est en déshabillé blanc devant sa coiffeuse. Curieuse, elle examine le flacon de la pommade et se regarde le visage. elle croit voir quelque chose, une rougeur qui n'a rien de bien grave. Mais elle ne se sent pas bien. Alors, elle décide de téléphoner au médecin. Docteur, je m'excuse de vous déranger, mais je ne sais pas. J'ai une rougeur au visage et j'ai des éblouissements bizarres, de plus en plus bizarres. Alors j'aimerais que vous puissiez m'examiner, s'il vous plaît. Docteur Ambert lui dit, « Bien, madame, venez me voir si vous voulez cet après-midi à 15h. Vous me demanderez. Je vous recevrai de suite. » « Je vous remercie, docteur. » Elle va voir le médecin avec le flacon. Le médecin l'examine, voit que les rougeurs ressemblent à ce qu'avait la femme de chambre. Il l'hospitalise. La femme lui demande, « Je suis perdu ?» Il lui dit, « Non, madame, et puis nous allons vous suivre. Et cette pommade, je l'ai fait examiner par l'Institut Pasteur, qui va me dire ce qu'elle a exactement. » Ensuite, nous saurons ce que c'est pour vous guérir. Il commence à regarder sur le flacon pour voir de quoi est fait la pommade. Rien d'extraordinaire. Téléphone. Au laboratoire Pasteur. Le chercheur qui s'est occupé de cette recherche lui dit, « Ils ont bien fait d'analyser cette pommade. Elle est dangereuse. Elle contient du CD. C'est un produit très mortel. Je vais prévenir le ministère de la Santé. » Le Dr. Ambert lui dit, « Je vous remercie. Est-ce que vous pensez que ce produit... Et la cause de cette maladie si terrible ?» Le chef du laboratoire lui dit, « Malheureusement, oui, je le crains. Mais si c'est le cas, nous serons capables, c'est de soigner les gens et de stopper cette horreur. » Le ministre de la Santé a été prévenu, puisque cette pommade est fabriquée par l'entreprise Forbini. On enquête dans l'entreprise où est fabriquée cette pommade. Et là, on apprend que de nombreux ouvriers avaient la maladie et mouraient. Ce qui inquiète le ministère. C'est en plus que le produit infecte les proches des personnes qui meurent et se propage dans la population. La direction Forbini, surprise et outrée que l'on fasse une enquête dans leur entreprise de fabrication de produits, a fait analyser. Mais il ne peut rien faire que d'accepter parce que c'est le ministère de la Santé qui le demande. Et puis, comme il veut démontrer qu'ils n'ont rien à cacher, il demande à la direction de fabrication de tout montrer sans rien cacher. Alors, on a pris des échantillons de ces produits directement de l'usine. On fait des analyses de ces échantillons et il y a bien du CO. Le directeur est surpris, dit qu'il n'y a pas de CO dans la fabrication de ce produit. Mais malheureusement, on leur montre les résultats des analyses. On leur demande s'ils n'avaient pas trouvé étrange que beaucoup de leurs employés mouraient. Le responsable de fabrication leur dit, étant donné qu'il y avait la peste, une usine des fabrications qui a été visitée par le service d'hygiène du ministère de la Santé. Tous les membres du conseil d'administration sont prévenus. Jean a été prévenu comme tout le monde. Ils sont surpris qu'il faut arrêter la fabrication de ce produit. Mais non tous les produits Forvigny. C'est la catastrophe. Arrêter un produit qui se vendait si bien, et puis ça va faire une mauvaise publicité. Les gens vont se dire que les produits Forvigny apportent des maladies. Un membre du service d'hygiène annonce la nouvelle à Jean qui le reçoit dans son salon. C'est un homme grand, mince, blond dans les 40 ans. Il porte un costume gris. Elle lui dit « C'est impossible que ce soit ça. On veut déstabiliser le groupe. » Il lui dit « Nous avons fait notre enquête, madame, et nous avons pris des échantillons dans votre usine de fabrication. Mais lorsqu'il y a ce produit qui est très dangereux dans votre pommade, donc nous sommes obligés, c'est de vous demander d'arrêter la fabrication de ce produit. Et nous vous demandons aussi, c'est de regarder pour les autres produits, pour voir s'il n'y a pas dedans des matières dangereuses. » Et lui dit, « C'est une catastrophe, monsieur. » Il lui dit, « La catastrophe, c'est qu'il y a eu et encore des millions de personnes qui meurent. » On ferme les usines de fabrication de produits Forvigny. Le personnel est au chômage. Les employés sont furieux. Il y a occupation d'usines et émeutes. Les journalistes ébruitent le pourquoi de la fermeture des entreprises Forvigny. On dit que c'est à cause qu'il y a dans leur produit un produit qui est très dangereux et que ces produits ont donné la peste aux gens.
Qui porte mon nom ?
Les personnes qui apprennent ça sont furieux. Le nom s'effondre. Plus de publicité. Heureusement que la famille a acheté des actions dans des usines d'armement. Le personnel est au chômage. Les gens sont furieux, manifestent d'une façon violente en se battant. Les services d'ordre mettent le feu aux voitures, brisant les vitrines, les magasins, criant à l'assassin, riche assassin, Forvigny assassin. Albert est effondré de cette affaire va voir Jean, qui lui dit, ne t'en fais pas, les choses vont se calmer. Et puis, nous lancerons de nouveaux produits bio. Ça fait bien. La femme moderne, bio. Et aussi pour les enfants et les hommes. Nous allons mettre des chercheurs là-dessus. Qu'ils fabriquent de nouveaux produits bio. C'est ce qu'ils font. La direction générale Forvigny réunit les syndicats et leur dit qu'il faut attendre un peu, qu'il y aura de nouveaux produits. La direction du groupe Forvigny communique à tous les médias une lettre d'excuse et qu'une enquête est en cours, que c'est sûrement une erreur. La police enquête, interroge le responsable de fabrication des produits et va voir les ouvriers qui travaillent à la fabrication. Tout ceci risque d'être très long. On interdit la vente des produits Forvigny et que les gens qui ont des produits Forvigny chez eux doivent les remettre dans les pharmacies pour qu'ils soient récupérés et détruits. Malheureusement, l'épidémie continue. Comment faut-il arrêter ? Soigner les malades. Les chercheurs cherchent comment soigner, arrêter l'épidémie. Maintenant que l'on sait, alors peut-être que ça ira plus vite parce que l'on sait que ça provient du KCO. Malheureusement, on ne trouve rien. Et puis le produit est tellement puissant qu'il s'est propagé à une vitesse terrifiante. On informe les gens, surtout de ne pas jeter dans l'eau ce produit et dans les lieux publics. Il y a un grand espoir dans toute l'Europe et chaque pays se bat pour trouver le médicament miracle, puisque l'on sait maintenant d'où provient cette horrible maladie. Malgré tout, les gens sont en colère et se disent que c'est toujours la même chose, que le malheur vient des riches, comme la guerre, le chômage, la misère, la famine et maintenant les épidémies. Que les riches, pour s'enrichir, produisent n'importe quoi et empoisonnent des millions de gens. La vache folle, les poules, les médicaments mortels, la pollution, l'amiante, etc., etc. Il y a de plus en plus de manifestants, malgré que les gens soient épuisés par la chaleur, la faim et le manque d'eau. Ils manifestent avec colère, rage, et disent que le gouvernement est du côté de ceux qui empoisonnent le monde et qui ne font rien contre eux. Une manifestation monstre, avec des pancartes et des gens habillés de noir, des cercueils en carton, ils vont vers le groupe Forvigny.
Il y a des pancartes qui portent mon nom.
Le gouvernement fait un communiqué qui dit qu'il va tout faire pour que les responsables soient punis et personne ne les croit. Adrien demande à Jeanne, est-ce que c'est vrai que l'on fabrique des produits dangereux ? Elle lui dit, non, ce sont des histoires pour déstabiliser le groupe, mais tout va rentrer dans l'ordre. Adrien se dit que ça ne va pas être simple. David se dit qu'il a bien fait de profiter de la fortune de Jeanne parce qu'elle risque d'être ruinée. Rambert dit à Elisabeth, cette épidémie, une erreur humaine, que de mort et de misère. Mais les choses vont s'arranger. On va trouver quelque chose pour arrêter tout ça, maintenant que l'on connaît sa provenance. Et lui dit, malheureusement, ça ne fera pas revenir les morts. La direction de Forvigny Fabrication s'insurge contre cette attaque et dit dans la presse, les produits Forvigny sont des produits de très bonne qualité surveillés en laboratoire, qu'il n'y a rien dans ces produits de nuisible pour la santé, et que l'enquête continue et que l'on verra une fois l'enquête finie que la société Forvigny n'y est pour rien. Le service de santé décide de faire une enquête et de voir avec quoi il fabrique et comment il le fabrique ce produit. Il regarde aussi les autorisations de mise en vente publique par le service d'hygiène. Et on s'aperçoit que dans la commission du service d'hygiène, il y a des membres du groupe Forvigny, ce qui laisse des doutes. Le groupe dit que ces membres, qui pour la plupart appartiennent aussi à d'autres groupes, et pour les médicaments, c'est la même chose. Alors on fait une enquête plus poussée sur la fabrication avec le service d'hygiène et sur les autorisations de vente au public et la police des fraudes. Les journalistes disent, après le scandale financier, des relations douteuses avec des idées politiques de la famille. Maintenant, cela devient une histoire d'empoisonnement de la population. Cela fait beaucoup pour un seul groupe et une famille. Il faut que justice soit faite. Albert se dit que le groupe est perdu et la famille aussi. Ça, c'est la faute à mes parents. Trafiquer avec des politiciens véreux, à vouloir à tout prix gagner de l'argent au détriment de tous, même de la santé des gens. Et cette histoire de gigolo. Il se dit aussi qu'elle l'a bien eue en lui donnant la marche des affaires, qu'elle devait savoir que c'était foutu, étant donné qu'elle lui a donné une grande partie des actions Forvigny et quelques entreprises de leur filiale. Le pauvre Albert est devenu le principal actionnaire et est responsable du groupe Forvigny. Mais elle reste malgré tout présidente directeur général du groupe sans s'occuper de l'affaire, puisque c'est lui qui s'en occupe et qui en est responsable, et ceci jusqu'à la majorité d'Adrien. Maintenant, on va lui tomber dessus. Elle, bien entendu, avec son petit-fils, elle va avoir une vie pépère, sans souci. Mais moi, je me défendrai. David souffre parce que Margaret ne veut plus faire l'amour avec lui. Et lui dit, « Que veux-tu? Je suis amoureuse et je souhaite que nous restions bons amis, comme avant, et que tu continues à m'aider. » Ça, c'est un grand privilège. Il est effondré. Mais il n'ose rien dire de peur qu'elle se mette en colère et le jette à la rue. Pauvre David, qui devient une véritable loque. Il sort le soir. Il marche dans la nuit en se disant qu'il est perdu, que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans Margaret. Il l'aime tellement. Il marche en broyant du noir. Il ne sait pas où il va. Marche devant lui dans les rues de cette ville chaude, poussiéreuse et vide. Et là, il voit qu'il est vers les quais de Seine. Le corps gros en pleure, il se dit, pourquoi pas? Au moins je serai libre de cette vie insupportable. Pourquoi pas? Alors il se met à pleurer sur lui, sur sa misère, sa solitude. Se dit qu'il a toujours été seul toute sa vie. Et comme un enfant, il n'a jamais été aimé. Pleure sur lui. Il se dit qu'il n'a rien fait de sa vie. Personne ne l'a aimé. Personne. Et c'est de Margaret qui le traite comme un moins que rien. Il aimerait la quitter, mais ne peut pas. Et se dit qu'il pourrait se la quitter sans que cela puisse lui faire de mal, puisqu'il ne serait plus. Oui, s'il était mort. Il ne souffrirait plus de ne plus voir Margaret. Il la quitterait définitivement. Pleure sa misère. Se moque de pleurer comme un enfant. Et puis, pourquoi pas? Pourquoi ne pleurait-il pas comme un enfant? Lui qui n'a jamais été un enfant, alors il est bien temps qu'il se comporte comme un enfant. Il descend jusqu'à la berge. Il fait nuit noire. Ce n'est pas éclairé. Il y a très peu de lumière dans la ville qui reflète sur l'eau. L'eau est noire. On voit qu'elle bouge un peu par des reflets de quelques rares lumières qui sont dessus. Il s'approche du bord et pleure. Pleure. Puis reste un long moment sans oser se jeter à l'eau. Pleure de rage. Essaye à chaque fois de tendre un pied dans le vide, mais n'ose pas tendre le deuxième. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet, Erebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.